soyez les bienvenus avec Leïla Kamour, Dédi, Morgane, Gadimor, Pierre, Tanguy,
Pastureux,
Daniel Morin, et notre ami, Monsieur Cyril Dion.
Ah non.
Florence Mendez, Fanny Ruet, c'est l'autre. C'est...
J'ai dit Fanny Ruet,
ouais.
Sans blaguer.
Fanny Ruet, c'est ma version, non, mais en basse def.
Voilà. Ah, j'adore. Je suis désolé. En plus, ça fait trois quarts d'heure qu'on parle tous les deux. C'est vrai, non, t'es sûr,
tu trois quarts d'heure, tu l'appelles Fanny.
Non.
Et
non.
Pour moi, vous avez dit Tex et je suis pas bien non plus.
Bon, et ben, à vous de dire maintenant les vrais noms en face. Allez. Des vrais titres. Blind test autour de Animal, le doc.
Ouf.
Essentiel.
J'ai cru que c'était Dion.
Dont nous allons parler. Avec Cyril Dion, on a dû tellement lui faire la vanne.
Oui, oui. Que... Oui, non, mais ouais,
puis, je vais la refaire dans un quart d'heure.
C'est vrai.
Ah, zut. Tanguy
Animals.
The Animals, oui. House of the Rising Sun. Sinon, c'était Johnny aussi. Hein. Ils ont tout piqué à Johnny, ces enfants. Hein.
Tout fumier.
Tout.
Parce que les paroles n'ont rien à voir.
Non.
Premier point pour Tanguy. Qui chante ça?
Tanguy.
Oui.
Francis Cabrel, Animal.
Bah alors.
Bravo.
Sur l'album Sarbacane.
Animal. Ah oui, carrément.
Ah, j'ai tellement écouté ça.
Numéro de référence.
À 1989, mais
ouais,
je sais pas exactement. C'est plage, plage 3.
Qui est la batterie?
Pardon?
Qui joue la batterie?
Manu Katché. Joli.
Putain,
bien sûr.
Qui chante ça?
C'est le batteur.
Oh là.
Morgan,
oui.
Maroon 5.
Oui.
C'est qui?
Maroon 5.
Ah oui. Ça se voit moins pas.
Le clip est ouf.
Ah, il est dingue. Animals, Maroon 5. Si tu vois pas ton geek qui sont Maroon 5, c'est...
Si, je vois, je connaissais leur premier tube.
Vous avez
non,
ça
tout
aussi.
Ça non.
Vous avez fait aussi les musiques pour les défilés Victoria's Secret.
Ouais.
Ah, moi j'ai.
Chacun sa culture.
Mais j'ai regardé, mais j'ai pas entendu la musique du tout. J'étais concentré sur les soutiens-gorge.
Tu peux pas faire des trucs en même temps.
Qui chante ça?
Ah si.
Daniel.
Marielle.
Cranberry.
Oui.
Bravo Daniel. C'est la génération Morin.
Complètement.
Les années WFM qui ressortent.
Les démons.
Qui chante ça? C'est pas leur plus gros succès.
Ah non,
mais vous allez reconnaître, je pense. Ne serait-ce que la voix. Oh, la basse.
Mais là, c'est beau.
Daniel.
Là, c'est beau.
Non.
Daniel.
Oui.
Muse.
Oui.
Ah, bravo. C'est IMX.
Muse.
Ah, c'est Muse.
Ouais. Daniel est très rock ce matin.
Ah, mince.
J'adore Muse.
D'ailleurs, sa chemise en jean.
Bah, Muse, ils avaient fait ça.
Oui.
Voilà.
Énorme.
C'est Rising, c'est quoi?
Up Rising, ouais.
Incroyable.
Qui chante ça? Le titre, c'est Animal. Comme pour Cyril Dion. Et donnez-moi le nom du groupe, je vous aide. C'est un groupe.
C'est vrai que ça nous aide.
Oh là là, c'est un grand prince.
Martin Circus.
Non.
Hop, Leïla.
Ouais.
Aerosmith.
Non.
Morgan.
C'est l'esprit.
Sum 41.
Guns N' Roses.
Pardon, non.
Tanguy, ah, c'est pas Van Halen, non?
Non.
Led Zepp.
Non,
c'est pas la voix de Led Zepp, ça.
Bon Jovi, Bon Jovi.
Non.
Non, c'était ça.
Je crois que c'est la première fois qu'on a... Cyril t'a balancé la réponse.
Bah, la mauvaise.
Mais non, mais j'aurais...
Non, mais la mauvaise.
En plus.
C'est pas ça. Ah, il a essayé de tricher.
Alors je vais vous aider. Le titre, c'est Animal, ça c'est sûr. Le nom du groupe, on pourrait dire que c'est un animal qui est sourd.
Def Leppard.
Joli.
Mais
je l'avais dit déjà.
C'est vrai?
Ouais, je l'avais dit. Mais c'est pas grave.
Ah bah, je suis vraiment bête.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi ce groupe?
Def Leppard. C'est quand même un groupe. C'est quand même un groupe où le batteur n'a qu'une main.
Exactement. C'est eux qui avaient fait ça. Ça, c'est un de leurs plus gros tubes, ça.
Ah oui, ça, je connais. Mais j'ai toujours cru
il
que c'était Bon Jovi.
Il y a plusieurs années.
Il s'est
années.
Coupé le bras.
Un bras au moins, il a... Non, il ne s'est pas coupé le bras.
Non, pas volontairement. Un matin, il s'est dit, oh,
c'est James Franco dans 127.
J'en ai deux.
Et donc...
On lui a aménagé sa batterie.
Exactement. Voilà. Il a une batterie totalement... Il y a un joli titre qui est arrivé, oui. Ce qui fait. Qui a trouvé Def Leppard? Je sais même plus.
C'est moi, Tanguy. Il y a que Tanguy.
Enfin, peut trouver ça. C'est moi le ringard.
Okay, oui. Alors, Cyril Dion, points. Il a trouvé Bon Jovi.
3 points pour Tanguy. Donc il a pas trouvé.
Il va vouloir balancer comme ça.
Ah bah si, on est comme ça, nous. Un point pour Morgane, 2 pour Daniel.
L'émission s'appelle 1942.
Tout se joue maintenant. Le titre, c'est Animals.
Deep Purple.
Non.
Metallica.
Non.
Non.
Non, non, pas
ça ressemblait à ce bien hauteur, le début.
Renault.
Renault quoi, la plus grosse des bagnoles.
C'est sûr, Vianney peut-être, non? Vianney, moi j'y vais.
Moi je dis Loudoyon, là.
Vous avez reconnaître la voix? Peut-être.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, Offspring.
Ah, c'est pas très rock, ouais, c'est l'idée, Offspring, mais c'est pas eux.
Sum 41, toujours
non.
Pas. C'est du rock californien.
Blink 182,
non. Non.
Linkin Park.
Non.
Green Day.
Non.
Green 182. Eh oui, c'est... on connaît que Blur. Non.
Bon, je vais vous aider, attention. C'est eux qui avaient fait ça.
Morgan. Oui.
Non,
c'est qui?
Nickelback.
Ah, est-ce qu'on peut baisser ce son?
Non,
Moi, je suis une vieille dame.
Alors, baisse ton casque alors.
Ah, oui, c'est mieux.
Comme on dit, si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux.
Ah, c'est ça?
Oui.
Je suis.
Et, ben voilà. Et c'est la victoire de Morgane Cadignan.
Sur Bon Jovi.
Non, sur Nickelback. Et merci d'accueillir Cyril Dion.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Bah, à propos de musique aussi d'ailleurs.
Tiens, c'est une reprise de qui ça?
T-Rex. On va me chauffer. Je t'ai marre, regarde autour, je suis énervé. C'est une reprise faite donc Children of the Revolution, reprise de T-Rex faite dans Animal. Bienvenue Cyril, ravi de vous accueillir.
Moi aussi, ravi d'être là.
Ça n'a pas été simple de trouver des agendas qui concordent entre le vôtre et le nôtre, mais on est ravi de parler de ce doc qui est au cinéma depuis le 1er décembre. Avant de commencer de dire quoi que ce soit, peut-être qu'il serait normal, élégant, je ne sais pas, ou peut-être que, enfin, vous en avez ressenti le besoin parce que vous avez écrit une lettre sur les réseaux sociaux, de parler de Pierre Rabhi, avec lequel vous avez
co-fondé.
Fondé. Ouais. Mmh. Il y a quelques années un mouvement, et Colibri, vous dites, ouais. Même si vous n'étiez pas d'accord avec tout ce qu'il a dit ou fait, en tout cas vous avez le sentiment d'avoir perdu un membre de votre famille.
Ouais, bah, une sorte de grand frère en écologie. Enfin, moi j'ai découvert tout l'engagement écologique par lui en 2006, quand on s'est rencontrés, qu'on a créé le mouvement Colibri. Et c'est un des premiers qui disait tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de petits ajustements, qu'il faut vraiment changer de paradigme, qu'il faut mettre la question du vivant avant la question de la croissance économique, du profit. Il avait une certaine radicalité qui était assez salutaire.
Ouais, une sagesse aussi sur la surconsommation, une petite phrase qui va trouver un écho dans ce que nous allons continuer de dire avec vous à propos d'Animal.
J'ai écrit un livre sur la sobriété heureuse, c'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je n'ai jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai telle bagnole, il me faut encore. Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait? L'argent n'apporte pas le bonheur, il apporte, bien sûr. J'en ai manqué et c'est pas pratique, c'est vraiment pas confortable. Mais quand on fait le bilan de ce besoin réel, se nourrir, se vêtir, s'abriter et se soigner, ben voilà les quatre éléments indispensables. Au-delà de ça, je ne prêche pas le ric-rac, serrons la ceinture, pas du tout. Je suis tout à fait dans le fait qu'il y ait une espèce de légèreté aussi à se faire plaisir, mais évidemment dans une forme de modération.
rajouter à la sobriété heureuse dite par et expliquée par Pierre Rabhi, on va rajouter l'annonce de cette sixième extinction de masse. C'est le point de départ, enfin le vrai point de départ d'ailleurs de votre film. Parce que c'est vrai que c'est un documentaire, mais c'est aussi un film avec des images incroyables, avec une bande son de ouf et avec une lumière.
Et c'est un parcours aussi et de deux personnes.
Exactement, de deux enfants, Bella et Vipulan. Qui était venu
à ce micro, qui était super déjà, très très engagé, qui nous a bien remué.
Ils ont tous les deux 16 ans, elle est anglaise, il est français, et le premier cri que l'on entend dans votre doc, c'est le cri du mal Kawaii
Bird, ouais.
Je ne sais pas si je prononce bien, qui attend la femelle, et c'est l'extinction, puisqu'il ne peut pas se reproduire, et c'est comme ça que les espèces finissent par disparaître. C'est ce cri que vous vouliez pousser dès l'ouverture.
Ben, c'est Bella qui a écrit ça. C'est comme ça qu'elle commence ses conférences. Elle fait entendre le cri de cet oiseau, qui est le dernier mâle de son espèce, et il n'y a plus de femelle. Donc elle dit d'une certaine manière, et c'est très poétique, c'est le son de l'extinction, puisque ce chant ne rencontrera jamais d'autres chants pour pouvoir s'accoupler et faire des petits. Et on est dans cette situation-là pour malheureusement beaucoup d'espèces. Les espèces disparaissent en ce moment entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale.
C'est ouf. C'est-à-dire qu'en 50 ans, 50% de la vie sauvage a disparu.
Ouais, on a perdu 70% des populations de mammifères vertébrés, 75% des insectes volants en Europe ces 30 dernières années, 30% des oiseaux. Enfin, c'est vraiment l'hécatombe.
Et il y a encore 1 million d'espèces en voie d'extinction.
Ouais, et si ça continue comme ça, en fait, ce qui fait peur aux scientifiques, c'est qu'on atteigne un point de rupture qu'ils appellent la sixième extinction de masse. Une extinction de masse, en fait, c'est quand 75% de la vie disparaît brutalement sur Terre. La dernière, c'était les dinosaures. Il y a 65 millions d'années.
Avec l'astéroïde qui est venu frapper la planète. Sauf que là, l'astéroïde, c'est un peu nous.
Exactement.
C'est notre consommation. Et quand on parle d'extinction et de disparition d'espèces ou des animaux, eh bien, il y a nous. On fait partie de ce genre animal.
C'est ce qu'explique un biologiste qu'on rencontre au Kenya. Il dit, en fait, c'est comme si c'était un mur de briques. Et chaque brique est une espèce. À chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est comme si on enlevait une brique du mur. Au bout d'un moment, le mur risque de s'effondrer et nous, on est une des briques. C'est-à-dire qu'on est dans le mur, on n'est pas à l'extérieur.
C'est ça
du mur.
Qui est incompréhensible.
Et c'est ça qui est incompréhensible, oui. C'est que les humains ne perçoivent
le
pas.
Le savent. Mmh. Mais on y va quand même.
Oui, mais c'est Hubert. Rappelle-toi, Daniel, Hubert Reeves à ce micro, quand on lui avait dit la nature, la planète va disparaître, il y avait un énorme silence.
Oui, non,
la planète, la nature, elle s'en sortira toujours. C'est l'espèce humaine.
Oui, absolument. Mais là, en fait, on est en train d'essayer de se sauver, nous-mêmes, contre nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui provoquons notre potentielle disparition, et c'est nous-mêmes qui devons nous convaincre d'arrêter de le faire.
Alors ça, c'est le constat, et ce que vous avez voulu avec ce nouveau documentaire, après le formidable succès de Demain. Alors, il y a eu Demain, il y a eu Après-demain, c'était plutôt un doc pour la télé, pour France 2, si j'ai bonne mémoire, pour voir quels avaient été les effets, l'écho de ce premier succès qu'avait été Demain. On va en reparler d'ailleurs de ce premier doc. Vous avez voulu comprendre pour agir sur les causes. Alors justement ces causes, il y a un spécialiste à Stanford qui était déjà dans Demain et qui est un détonateur aussi pour vous en termes de réflexion.
Bah oui, lui et sa femme, c'est deux scientifiques extraordinaires qui travaillent sur la relation entre le changement climatique et l'extinction de masse des espèces.
C'est ça.
Et donc on va le voir, et Bella lui dit, donc on entend souvent parler de cette histoire de sixième extinction de masse, mais on comprend pas pourquoi elles disparaissent. Donc pourquoi toutes ces espèces disparaissent? Et il nous explique qu'il y a cinq grandes causes. Il y a à la fois le changement climatique qui accélère.
C'est le professeur Anthony Barnowski.
Exactement. Donc, le changement climatique accélère la disparition des espèces parce que, au fur et à mesure, par exemple, les incendies massifs en Australie ont fait 1,2 milliard morts chez les animaux de l'île.
Des images terribles.
Des images absolument terribles. On voit des koalas, des kangourous qui sont morts dans ces incendies-là. Il y a des espèces qui peuvent plus s'adapter aussi à leur milieu parce que leur milieu change trop vite. Donc, ils trouvent plus l'alimentation qu'il leur faut où ils habitent.
Il n'y a plus l'habitat, il n'y a plus l'alimentation.
Donc, changement climatique, espèces invasives, c'est-à-dire nous, les humains, on emmène des espèces qui sont pas faites pour vivre à certains endroits, dans certains territoires, et donc ces espèces rentrent en compétition et ça provoque l'extinction d'un certain nombre d'entre elles, qui sont natives.
Oui, et en même temps, comme elles ont plus d'habitat aussi, elles se rapprochent des êtres humains et ça peut nous apporter du SARS ou des Covid, c'est-à-dire des pandémies mondiales. Quelle que soit la raison et d'où vient le Covid-19, peu importe, en tout cas, il y a des maladies que le genre humain ne connaissait pas et commence à connaître
à cause de la proximité.
À cause de la proximité.
animaux sauvages vivent plus. Et donc les trois autres causes, c'est pollution, surexploitation et effectivement destruction des habitats, qui est la cause numéro un. Et plus on détruit les habitats, comme vous le disiez, plus les animaux sauvages se mettent à nicher près de là où sont les humains et près de là où sont les animaux domestiques. Et donc, plus le risque d'avoir des virus qui viennent du monde sauvage, ces fameuses zoonoses, plus ces risques sont importants.
On va continuer de parler de Animal. C'est au cinéma, c'est un film essentiel, c'est un film à voir en famille, même si votre rôle de maman ou de papa va prendre toute son importance pour rassurer aussi les enfants. Parce que
c'est là que c'est très intéressant que ce soit les deux enfants.
C'est une valeur éducative.
Ce parcours-là,
exactement.
Parce que tu peux t'identifier quand tu as cet âge-là.
C'est ça. Animal, c'est au cinéma. On va continuer de parler avec Cyril Dion. Mais alors, nous sommes ravis de vous accueillir, Cyril. C'est pas le cas de tout le monde ici. Voici Morgane Cadignan.
Mais comment fait-elle?
Pour être aussi méchante.
Comment fait-elle?
Oui, c'est ça.
Ça lui apprendra
presque un talent,
à souffler Bon Jovi aussi.
C'est pour ça, je savais.
Voilà, il mérite.
Cyril Dion, je vous aime pas, mais vous êtes quand même mon deuxième Cédion préféré au monde. La première position étant bien sûr occupée par Cyprien Dion.
Évidemment.
Mon ostéopathe. Voilà, j'ai évité la blague hyper lourde en parlant de mon ostéopathe. Bon, voilà, c'est un très bon médecin. Faut le voir reprendre All By Myself en faisant craquer le bassin. C'est magnifique. Alors oui, ce début de chronique n'a aucun sens, mais on est le 6 décembre.
C'est vrai.
Et j'ai décidé que rien n'aurait plus jamais de sens. De toute façon, j'ai plus de 30 ans depuis quelques jours. Donc je décide qu'à partir de maintenant, on rentre dans une décennie d'absurdité totale où rien ne sera vraiment réel. Cyril, vous êtes né à Poissy et pourtant vous voulez quand même sauver la planète.
C'est chaud. Hein.
Et c'est hyper fair play de votre part. Moi qui ai grandi à Troyes, je tourne à 6 douches par jour. En 2007, vous fondez avec le regretté Pierre Rabhi le mouvement Colibri que beaucoup trop de gens à mon goût ont retourné à leur avantage pour pas en foutre une rame. T'as des mecs qui prennent l'avion 27 fois par an, mais qui te montent leur gourde en te disant « Eh, je fais ma part ou je fais pas ma part ?» Il reste des chips au phoque. En 2015, vous sortez « Demain », co-réalisé avec Mélanie Laurent. En 2018, « Après-demain » avec Laure Noila. Et en 2022, sortira « Après-après-demain », pas ce dimanche-là, mais l'autre. Un film qui raconte le moment où les dirigeants vont s'intéresser réellement aux problèmes de l'écologie. Ah. En attendant, vous venez de sortir « Animal » au cinéma. Un documentaire génial, mais c'était pas la peine. Moi, je savais qu'on était liés à toutes les autres espèces. Vous avez déjà vu Daniel Morin 8h30 du matin, si c'est pas une preuve qu'on est génétiquement pas loin des ours. Un jour, il y avait du brouillard, je l'ai vu arriver au loin avec sa doudoune et sa démarche mal réveillée. Dans le doute, j'ai balancé le sneakers que j'avais dans la main. Pas de risque. Et puis, un peu de respect pour les animaux, parce que notre espèce humaine a un peu tendance à se croire plus malin, parce qu'apparemment, on serait doté de la raison. Quelqu'un a allumé Energy 12 récemment? Quelqu'un a regardé le meeting d'Éric Zemmour? Alors oui, il y a eu Aristote, il y a eu Mozart, il y a eu Thierry Henry, mais c'est pas assez pour ériger toute l'espèce humaine en roi du monde. Parce qu'excusez-moi, mais les oies sauvages, quand elles migrent, on voit pas un corbeau sur les plateaux télé dire que c'est pas normal, qu'on peut pas accueillir toutes les oies du monde sous prétexte que leur habitat naturel est en train de cramer, gna gna gna. Donc l'être humain au-dessus de l'animal, pour moi, ça reste à prouver. Tous les samedis, quand je vois mon mec bourré pisser contre une porte cochère en rentrant de soirée, je me dis qu'au moins un chien, bah c'est fidèle. Et à tous, et à tous ceux qui répondent, de toute façon, moi je veux pas d'enfants, donc le réchauffement climatique, ça me concerne pas. Pardon, mais quand t'es au resto, c'est pas parce que t'as pas faim que tu vas chier dans les cuisines, en fait. Ça se fait que si vraiment c'était pas bon. Moi, j'avoue que maintenant, un œuf mollet, pas vraiment mollet, un petit tour en cuisine pour exprimer mon mécontentement. Mais Cyril, à travers vos écrits, votre combat, vous nous prouvez qu'on peut pas s'en sortir en faisant caca partout, en fait. Qu'il va falloir agir, vivre ensemble, changer un peu nos habitudes. Et je commence maintenant. Daniel, si tu veux du miel et un endroit sec pour dormir, tu es bienvenu chez moi.
Merci. Merci, Morgane.
Morgane vous retrouve sur scène toute la semaine et ça sera les dernières du jeudi au
samedi
à 20h au Métropole.
Tout à fait.
La Corée est là.
Ça c'est la BO également d'Animal. On parlera de la musique parce qu'elle a un rôle important dans votre vie, Cyril Dion. Mais ce projet Animal, alors contrairement à Demain, ce n'est pas le crowdfunding qui a permis à ce film d'exister, parce qu'il y avait 10 000 coproducteurs finalement dans Demain, ce qui est un record monde d'après ce que
pour un documentaire, ouais.
Voilà, pour un doc, oui. D'après ce que j'ai vu, là, c'était plus facile vu le succès de Demain, vu les récompenses et la notoriété de pouvoir monter le projet ?
Beaucoup plus facile, infiniment plus facile. Ouais. On a notamment eu la chance que QGC nous accompagne tout de suite. Mais on a eu quand même une petite surprise avec le Covid. C'est-à-dire que on a des partenaires qui se sont malheureusement désistés parce que situation économique dramatique. Donc on a quand même fait un crowdfunding.
Ouais, à la fin du film, il y a des visages qui apparaissent.
Pour finir le film. Et là, on a eu la chance d'avoir à nouveau 5000 personnes qui nous ont soutenus.
Il n'y a pas un peu un côté frustrant de se dire qu'il faut être bankable pour trouver, même en traitant ce genre de sujet, pour trouver du monde?
Si, c'est hyper frustrant. Ce qui est hyper frustrant aussi, c'est que le cinéma va très mal et que l'énergie qu'il faut dépenser pour emmener les gens dans les salles, alors que sur les plateformes, ça va comme ça en deux secondes, c'est aussi très 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 frustrant.
Mais le paradoxe de tout ça, c'est qu'il faut de l'argent pour faire des films et que ceux qui financent le cinéma, justement, ont des salles, poussent à la surconsommation de pop-corn, de boissons sucrées, de canettes et ainsi de suite. Non mais c'est tout un système dans lequel on est tous partie prenante. Je ne jette encore une fois la pierre à personne, je dis simplement que c'est vrai que on arrive à un moment où on se pose la question de notre responsabilité individuelle avant de montrer du doigt les autres en disant c'est la faute des autres ou d'aller chier dans la cuisine en disant j'ai pas envie de manger aujourd'hui. Mais
ça,
donc,
c'est pas mal.
Voilà, j'ai beaucoup aimé cette image de Morgane. Mais c'est vrai que ce que l'on voit surtout, c'est le rôle des politiques. On en parlera tout à l'heure avec Claire Nouvian qui est dans le doc et qui se bat, il n'y a pas d'autre terme, presque physiquement d'ailleurs, à Bruxelles.
Et qui a failli laisser sa paume.
Pour les financements, qui reçoit des menaces de mort régulièrement contre la pêche.
La surpêche.
Elle a réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche électrique.
C'est ça. Ouais, elle a réussi à faire interdire, sauf qu'on a l'impression que ça continue aussi, qu'il continue d'avoir des énormes filets qui ramassent, qui pourrissent les océans. 90% de ce qu'ils ramassent, des poissons qu'ils ramassent, d'ailleurs, ils les rejettent.
Ils rejettent,
morts dans les océans. Enfin, on est à un stade où le politique, donc nous, avons aussi cette espèce de responsabilité. Et c'est quand même pas naïf si votre doc arrive à la veille d'élections présidentielles, j'imagine.
Non, après on a la pandémie qui nous a quand même pas mal bousculé le planning, mais évidemment...
Ça restait avant les élections.
On a envie, oui, absolument. On a envie que le film pèse, parce que...
Alors à quel point être utile pour vous, ça veut dire quoi aujourd'hui?
Clairement, la question écologique est absolument pas dans les débats pour le moment.
Absolument
on
pas.
S'est fait complètement hacker
l'immigration,
par Zemmour, la sécurité, l'immigration, etc. Alors que le danger des dangers, c'est quand même celui-là. Je veux dire, on peut pas se permettre de perdre 5 ans de plus. Le réchauffement climatique accélère, la disparition des espèces aussi. Donc on a envie d'ouvrir une conversation pour se dire, c'est quoi la priorité des priorités de nos sociétés? Dans le film, il y a un économiste vraiment génial qui s'appelle Éloi Laurent, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, et qui dit, on a vraiment la croyance que la chose la plus importante de toutes, c'est la croissance économique. Sauf que cette croissance, aujourd'hui, elle n'empêche pas que l'espérance de vie baisse aux États-Unis, que les écosystèmes se dégradent, que les systèmes politiques et que nos démocraties soient en danger.
Qu'on meurt de plus en plus jeune.
Exactement. Ouais. Et donc, on a besoin de se dire, c'est quoi le plus important pour nous? Et il nous raconte que les études sociologiques qui ont été faites partout dans le monde, quand on dit aux gens, c'est quoi la chose la plus importante pour vous? Malheureusement, pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ils disent la santé. D'abord, la santé. Et quand on leur demande ensuite, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ils disent le lien social, c'est-à-dire les autres humains. Cette interview-là, on l'a fait avant la pandémie. Donc quand on a monté l'interview et qu'on entend le plus important c'est la santé et le lien social en pleine pandémie confinée, on s'est dit oui, effectivement, je confirme.
Et lui, il dit être aimé et être aimé.
Là, il parle pour lui. Ouais. Alors, pour lui. Te dit, pour vous, qu'est-ce qui compte?
C'est l'amour.
Il marque un petit temps.
Oui.
Un silence qui est formidable.
Très amoureuse de lui.
Et, non, mais tu peux.
C'est vrai.
On est
plusieurs. Il y a du monde.
Moi,
c'est pas. Il parle en effet de cet amour. Et pourtant, on entend toujours les... Et puis il y a des témoignages qui sont extrêmement forts également dans le film. On voit des éleveurs, on voit
éleveur de lapins.
Cet éleveur de lapins.
De vaches.
Oui, et puis
qui est au bout du rouleau.
Bon, alors on va faire dans l'ordre.
Pardon.
Les lapins
d'abord. Commençons par les lapins. Déjà, qu'ils acceptent les deux d'être filmés. D'être nommé, de rencontrer les enfants, c'est un formidable courage qu'il faut avoir, parce qu'ils ont dû avoir le sentiment d'être pas en terre d'accueil. Et d'ailleurs, les enfants ont du mal presque à croiser le regard de l'éleveur de lapins.
Effectivement, cet élevage de lapins, en fait, on rentre dans un bâtiment où il y a 8000 lapins en cage, ils ont chacun l'équivalent d'une feuille à quatre pour vivre. Et Bella et Vipulane ne savent pas dans quoi ils vont rentrer. Parce qu'évidemment, moi, je voulais que leurs émotions soient palpables à l'écran.
Et comment, l'éleveur accepte Sachant que vous êtes emblématiquement contre lui,
ouais.
comment accepte-t-il de vous accueillir au
début ? Cet éleveur, en fait, au départ, il avait envie de témoigner sur sa condition à lui. C'est-à-dire sur le fait qu'il gagne 350 euros par mois, qu'il ne peut pas survivre et qu'on ne peut pas laisser les éleveurs dans cette situation-là.
Il est entre le marteau et l'enclume. Il est coincé par la coopérative et il y a toute l'histoire financière, l'avancement de l'argent qui est expliqué.
Ouais. Exactement. Et il dit que, voilà, comme il ne peut pas vivre avec ses 350 euros par mois, la coopérative lui fait des avances de trésorerie, qu'il doit rembourser avec les lots de lapins, donc il devient tellement endetté que son élevage ne lui appartient plus et qu'il ne peut même plus s'en sortir. Et quand on a dîné avec lui la veille du tournage, on lui a expliqué ce qu'on voulait faire et je crois qu'on a réussi à créer une relation de confiance parce qu'au départ, il ne voulait pas être à l'image. Il voulait qu'on filme que Bella et Vipulane et qu'on transforme sa voix. Et puis petit à petit, il a vu qu'on ne voulait pas faire un truc sensationnel, qu'on ne voulait pas le piéger non plus. Qu'on voulait que sincèrement il explique quel était son métier.
Ça, c'est ça.
Et ce qui est très fort dans les salles.
Et qu'on le comprenne et qu'on soit presque dans la compassion avec lui.
Exactement. Parce que, mais c'est exactement c'est ce qui se passe et qui nous a, nous, beaucoup étonnés au départ. C'est que toute la première partie de la séquence, souvent il y a des rires, les gens sont mal à l'aise, voire même ils le jugent. Et puis il y a un moment de bascule, quand on comprend qu'il est vraiment en cage avec ses lapins, où on se met à avoir de l'empathie pour lui, où on se met à être touché par ce gars en se disant, mais en fait, il est pris dans le système au même titre que tout le monde. Et donc, en fait, c'est pas juste un problème de personne. C'est vraiment un problème, comme vous le disiez tout à l'heure, un problème politique, un problème structurel.
Et c'est ce que vous réussissez à faire dans ce film. Non seulement vous exposez les dangers qui nous menacent, ces périls imminents, pour le coup, et aussi vous réconciliez Bella, cette jeune fille qui est vraiment extraordinaire, avec le genre humain. Parce que c'est une jeune fille comme ça qui est très très engagée, qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement britannique, pour dénoncer beaucoup de choses qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, et qui est devenue un peu misanthrope avec le temps, parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'on inflige une telle douleur aux animaux, qu'on ne respecte pas ainsi la nature, et de lui faire rencontrer ce monsieur qui, à un moment, prend un lapin mort et qui le sort comme ça, de façon...
Très détaché,
il le prend, il le pose, il le jette, et devant le regard des gamins complètement paniqués, c'est aussi lui faire comprendre que cet homme n'est pas mauvais au fond, il est juste en train de se débattre avec les contradictions qui sont autour de nous, et nous on n'est pas en première ligne, donc on n'est pas amené à faire ça, mais si on était à sa place, on ferait sans doute la même chose. Je trouve que ce que vous réussissez à faire dans le film, c'est ça, c'est porter un autre regard sur ceux qui œuvrent positivement, ou ceux qui sont victimes aussi d'une certaine façon de tout un système.
Et on voulait vraiment faire un film qui soit pas manichéen, où il n'y ait pas les gentils, les méchants, et où on puisse effectivement recréer du dialogue. C'est très rare quand même de voir deux jeunes véganes urbains parler avec un agriculteur qui fait de l'élevage intensif, sans se crier dessus, sans se traiter de tous les noms, ce qui est quand même un peu devenu la norme aujourd'hui. Et essayer d'aller un peu plus loin, justement, que leur désaccord, pour comprendre quel est le problème systémique qui est au-dessus d'eux. Et c'est vrai qu'après, on va avoir un autre éleveur, parce qu'on voulait aussi montrer des réalités différentes, qui, lui, est dans le Jura, qui a des vaches. Et Bella a tout de suite remarqué qu'il a un petit carnet, où il a le nom de chacune de ses vaches. Et il dit, moi, je les compte pas, il faut que j'aille voir tout le monde.
Il fait l'appel.
Et je les reconnais, la façon dont elles me regardent, dont elles lèvent les oreilles, etc.
Il les aime.
Exactement, il a une relation hyper forte avec elles. Et Bella lui dit, mais du coup, quand vous les emmenez à l'abattoir, ça vous fait quoi ? Et il a une émotion qui monte, c'est-à-dire qu'il se met à pleurer, il fait tout ce qu'il peut pour retenir ses larmes. Et il est trop mignon parce qu'il dit, bah je le vis mal, en résumé. D'abord parce que je suis pas un viandard. Et ce qu'il nous a dit, qu'on n'a pas gardé dans le film, parce qu'on n'a pas pu tout garder, qui était encore plus dingue et qui nous a fait vachement réfléchir, c'est qu'à un moment, il nous dit, bon, quand c'est les veaux, ça me fait moins d'effet.
On se disait,
mais comment ça, quand c'est les veaux, ça vous fait moins d'effet, c'est des bébés, c'est encore pire. Non. Et en fait, c'est parce que les veaux, il n'a pas eu le temps de créer une relation avec eux. En fait, les vaches, il est particulièrement bouleversé parce qu'il les connaît.
Et encore,
parce qu'il vit avec elles.
Elles sont en liberté dans des prés.
Elles sont dans les montagnes, en pâturage.
Elles peuvent avoir, c'est ça, une vie douce. Elles ne sont pas cloîtrées dans quelques centimètres carrés.
Non, ça n'a rien à voir comme type d'élevage.
Enfermées, parce qu'on peut être aussi contre l'élevage intensif, mais pour intensifier, par contre, le nombre d'agriculteurs, le nombre d'éleveurs, et humaniser justement ces rapports. C'est peut-être l'une des solutions. On ne va pas interdire et empêcher tout le monde de vivre comme il a envie de vivre, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que le nerf de la guerre, ça reste l'argent, que cette histoire-là et que c'est,
bah,
c'est, et que cette course sans fin, c'est l'argent, l'argent, la rentabilité et peu importe. Après moi, le déluge, on s'en fout de ce qui va se passer derrière. Il faut juste être rentable.
Il y a une scène qui est sidérante dans le film quand les deux enfants essayent d'avoir l'attention justement d'un lobbyiste et il lui court après en lui disant on a une question à vous poser, on a une question à vous
poser. Mais quel chien celui-là ? Mais moi, j'ai envie de rentrer dans l'ascenseur et de le gifler. Non mais sans blaguer. Il a même pas la politesse de répondre à des enfants qui lui parlent.
Non mais lui c'est hallucinant parce que c'est l'assistant parlementaire d'un député espagnol.
Ouais, c'est même pas un lobby.
En fait, Bella Evipulan assiste à une commission et Claire Nouvian, donc qu'on va avoir tout à l'heure, leur fait le sous-titre. Donc on a figuré ça en mise en scène avec des petits SMS pour qu'elle leur explique ce qu'ils disent vraiment en dessous de ce qu'ils disent publiquement. Et elle leur fait comprendre qu'en fait les députés espagnols font croire qu'ils veulent des crédits pour la pêche artisanale, mais qu'en fait ces crédits vont sûrement aller à la pêche industrielle et donc provoquer vraiment, continuer à vider les océans de façon
sauvage. Le prétexte, c'est la qualité de vie des pêcheurs espagnols.
Voilà. Et ils disent non, mais nous on veut mettre des toilettes sur les bateaux, c'est la qualité de vie des petits pêcheurs. Et elle dit mais c'est bullshit, ils nous l'ont déjà fait 1000 fois. Et on sait en plus qu'ils reprennent les arguments des industriels, qui leur font des amendements clés en main, et ils les déposent comme ça. Parfois, c'est la façon dont on les a pris la main dans le sac, ils écrivent tous le même amendement avec la même faute d'orthographe. Et donc, évidemment, tout le monde dit « Ah tiens, c'est bizarre, et cette faute d'orthographe, elle vient d'où ?»« Ah, elle vient de ce document qui a été fait par l'industrie. » »« Ah, très bien, bon, d'accord. »
Copier-coller, super.
Et donc, Bella Evipulan essaye d'aller parler à cet assistant parlementaire pour dire « Mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que vous prenez cette position-là » Le type s'enfuit, ne prend même pas la peine leur raconter quoi que ce soit.
Comment accepte-t-il que son image soit dans le film ?
Ah ben, lui, en fait, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il est dans un espace public. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, on a le droit de filmer à la fois à l'intérieur des sessions, mais aussi dans les couloirs. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est mettre sa main devant la caméra et dire je souhaite que vous arrêtiez de me filmer. Mais il n'a pas eu la présence d'esprit de le faire.
Il faut déjà qu'il ait un esprit.
Et là, en l'occurrence, quand quelqu'un est filmé et qu'il ne peut pas ignorer que vous le filmez, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a vu la caméra et qu'il est dans un espace public, on a le droit de garder les images, sauf s'il s'y oppose frontalement, ce qu'il n'a pas fait.
Ça s'appelle Animal, c'est de salubrité publique. Il faut absolument que tout le monde voit ce film en famille. Alors c'est pas un Disney, c'est pas un dessin animé, non, mais c'est la vie, c'est l'avenir, et pas uniquement l'avenir de nos enfants, mais aussi de nos petits-enfants et de nos petits-petits-petits-enfants, parce que le time is running, hein, le temps court.
Moi, je pense que c'est mort.
C'est une course contre la montre.
On y arrivera.
Ça sent pas très bon, en tout cas, mais il n'est pas non plus totalement pessimiste.
Non, c'est pas mort.
Ce film, quand on voit justement qu'il y a des générations qui sont concernées, qu'il y a des possibilités, et que même ceux qui sont dans ce système et qui sont l'un des rouages de ce système ne l'assument pas totalement. Il faut peut-être se poser la question. Elle est, oui, économique. Oui, un problème de lobby. Elle est donc politique. Et la politique, bah, c'est aussi nous, avec le bulletin que l'on met dans l'urne quand on sait à quoi il peut servir. C'est à la fois notre portefeuille et notre bulletin qui peuvent changer les choses.
Ah oui, complètement. Enfin, on a besoin d'orienter justement les structures politiques et économiques. Donc, là où on met son argent quand on achète, mais là où aussi on met son épargne. Hein. Aujourd'hui, il y a des grandes banques qui continuent à financer les énergies fossiles, pour pas les citer, la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, etc. Et il y a d'autres banques qui, au contraire, financent l'économie sociale et solidaire, financent la transition écologique. Il faut changer son épargne de place.
Et même les moteurs de recherche sur Internet. Il y a des moteurs de recherche qui
Il y a des moteurs comme Ecosia, par exemple, qui permettent de planter des arbres. On peut faire tout ce qu'on peut dans sa vie de tous les jours. Hein. On le disait tout à l'heure, manger beaucoup moins de viande et beaucoup moins de produits d'origine animale de façon générale. Utiliser beaucoup moins de plastique. Faire en sorte de d'émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Donc vivre avec sobriété, comme le disait Pierre tout à l'heure. Et puis, faire de la politique au sens... voter, mais aussi engager des rapports de force avec les responsables politiques.
Aller dans
la rue, aller dans les tribunaux, comme on l'a fait avec l'affaire du siècle, quand on a attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique, faire de la désobéissance civile. On a vraiment besoin que les responsables politiques entendent qu'on ne votera plus pour eux s'ils ne prennent pas des décisions qui sont courageuses par
rapport à ces sujets-là. D'autant que certains vous ont déçu, on en reparlera tout à l'heure avec Claire Nouvian. Voici Florence Mendez.
Salut à tous. Alors on me dit souvent que je parle pas assez de politique dans mes chroniques, et pour une bonne raison, bah, je suis belge. Alors un belge qui te parle de gouvernement, bah, c'est comme Oscar Pistorius qui te parle d'orteil. Hein.
Oh.
Aujourd'hui, je vais vous parler de doigts de pied. Non, pas du tout. Non. Je vais vous parler de la Belgique. Hein. La Belgique, ce pays à la pointe de la technologie où on a enfin découvert la DSL, la pénicilline et les pouces opposables. La naissance de la Belgique en tant que pays ne date que de 1830. C'est donc un état encore fort jeune, hein, pour ne pas dire en pleine crise d'adolescence. Alors la Belgique est une monarchie constitutionnelle et à sa tête on retrouve le gouvernement fédéral. Et c'est là que ça devient rigolo pour un pays qui souvent se retrouve sans gouvernement, l'avant-dernière fois pendant un peu moins de 2 ans. Ce n'est pas le seul gouvernement dont nous disposons. Vous êtes prêts ?
Oui.
Allez.
Accrochez-vous. Politiquement, la Belgique est divisée en 3 régions. La région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. Ces 3 régions ont chacune leur propre gouvernement. Alors après les régions, il y a les communautés linguistiques, la communauté française, également appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, et la communauté germanophone qui représente un peu moins de 80 000 habitants qui ont également chacun leur propre gouvernement. La région flamande et la communauté flamande dont elle fusionnée, et donc petite joueuse, qu'un seul gouvernement pour les deux. Nous nous retrouvons donc avec 6 gouvernements différents, ce qui explique au début de la crise du Covid pourquoi nous avions 9 ministres de la Santé. D'où sortent les 3 autres, me direz-vous ? À Bruxelles, la santé doit être gérée par 2 ministres, un francophone et un néerlandophone, mais on ne sait pas pourquoi, il y en avait quand même un 3e, car la communauté française, allez savoir pourquoi, préférait en avoir 2. Alors je me souviens d'un article qui se demandait tout de même si 9 ministres de la santé, ça compliquait pas un peu la gestion de la crise en cours. Pas besoin d'article, la réponse est oui. En tout cas, on est au top. Hein. Niveau nombre de morts par habitant, ce qui concerne le Covid, on est toujours très très bien placé dans le classement mondial. Je pense qu'on est après le Pérou. Intéressons-nous maintenant aux élections. Voilà, le vote en Belgique est obligatoire. Sinon, je pense que personne n'irait, pour la simple et bonne raison que personne ne comprend rien. Voilà. Les partis s'allient entre eux afin de former une majorité au gouvernement et des surnoms sont donnés à ces coalitions, généralement en fonction des couleurs des différents partis. Alors il y a par exemple la suédoise avec le jaune des séparatistes flamands, le bleu des libéraux francophones et la croix hein, des chrétiens humanistes flamands également. Le tout mis ensemble, hein, ça rappelle le drapeau de la Suède. Voilà. On a également évoqué une coalition jamaïcaine avec le bleu des libéraux, l'orange des chrétiens humanistes et le vert des écolos. Et là vous me direz, mais c'est pas du tout les couleurs du drapeau de la Jamaïque. Eh bien c'est parce que pour ces couleurs, hein, ils se sont basés sur les couleurs des partis allemands que personne ne connaît et dont... Tout le monde se fout. Alors actuellement, notre premier ministre, c'est le flamand Alexander De Croo. Son gouvernement accueille la coalition Vivaldi en référence aux 4 saisons représentées par les couleurs des partis. Il y a le rouge foncé des socialistes francophones, le bleu foncé des libéraux francophones, le vert clair des écolos francophones, l'orange des chrétiens humanistes flamands, le bleu clair des libéraux flamands, le rouge clair des socialistes flamands, le vert foncé des écolos flamands. Autant te dire que si ce gouvernement était une pizza, ce serait un truc genre ananas, anchois, bledoven, chorizo, cacahuète. Vraiment. Allez, on termine avec une pépite, une interview d'Yves Le Terme, un ancien Premier ministre belge à qui l'on demandait de chanter la Brabançonne, hein, l'hymne national de la Belgique.
Allons enfants de la patrie.
Mais non.
La Brabançonne, ça. Pardon. La Brabançonne, c'est vraiment ça.
Oh, je sais pas.
Voilà.
Merci, Florence.
Et désolé, hein.
Et Florence, tu es tous les jeudis à partir du 6 janvier au Métropole, à Paris.
Tout à fait.
La musique, alors qui l'a faite cette musique de la BO d'Animal, Cyril Dion ?
Eh bien, c'est Xavier Polycarpe et Sébastien Hogg. Xavier Polycarpe, peut-être vous le connaissez pour son groupe Gush ou pour Macadam Crocodile. Oui. Et Sébastien Hogg, il a été le guitariste d'Isia et puis il a composé avec elle ses 2 premiers albums. Et il a réalisé des albums de Jeanne Chéral. Enfin, c'est deux formidables musiciens.
Gush, il y avait un son très pop rock justement. Qui... La musique dans la vie justement de Cyril Dion. Avant de recevoir tout à l'heure Claire Nouvian, on va commencer en 96. Vous écoutiez Nirvana.
Musique parfaite, Cyril, pour illustrer. La crise d'adolescence, un peu tardive.
Absolument.
Que vous avez pu faire dans ces années-là, 96, un peu rock'n'roll, un peu soirée chargée, lycéen,
bah, plutôt... Mes parents venaient me chercher de temps en temps au commissariat, oui.
En garde à vue, voilà,
mais
voilà.
Non. Mais si.
Ouais. Et alors que vous avez été enfant de cœur jusqu'à vos 15
mais
ans.
C'est moche, mais c'est pour ça qu'il fallait que je fasse une moyenne.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ben.
Thalassa. Il a vu Thalassa, il a.
J'étais gentil, quoi. Jusqu'à 14 ans, j'étais gentil. Et puis après, j'ai découvert le rock, j'ai découvert les Doors, j'ai découvert Nirvana.
Vous êtes en train de dire que la musique.
J'ai découvert l'alcool.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a quand même des produits dérivés qui vous ont poussé dans les extrêmes.
La drogue, tout ça. Bon. Et effectivement, besoin de. besoin de casser un peu le carcan, quoi. Je suis né dans un endroit qui était quand même très catho, très conservateur et tout ça. Et moi, je me reconnaissais pas beaucoup dans tout ça.
Je suis désolé parce qu'on parle très peu, voire jamais de vie privée ici, mais vous l'avez évoqué récemment. Est-ce que c'est une période aussi où vous aviez besoin que ce que vous aviez mis sous une chape de plomb ou de béton sorte et explose à votre manière?
Bah oui, alors vous évoquez le fait que j'ai dit publiquement que j'avais été agressé sexuellement quand j'étais enfant et à l'époque je m'en souvenais absolument pas. En fait, j'ai fait ce que font beaucoup d'enfants,
une amnésie traumatique,
une dissociation en fait, c'est-à-dire que on oublie complètement ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que j'avais en moi une espèce de colère qui cherchait à s'exprimer par tous les moyens. Et que j'ai essayé de canaliser à la fois avec la musique, à la fois après avec le théâtre, puisque j'étais jeune acteur. Je crois que c'est notre prochaine station.
Et c'était,
c'est très drôle parce que quand j'étais jeune acteur, j'étais dans une école qui s'appelle l'école Jean-Pierre Imoni. J'étais dans la même promo que Camille Cotin d'ailleurs. Et en troisième année, on avait une audition Shakespeare. Et Jean-Pierre Imoni nous donnait un rôle et il m'avait filé Richard III. Je disais, mais quel est le rapport entre moi et Richard III? Vraiment, je ne vois absolument pas. Il m'avait donné cette scène où il manipule les Diane et qui commence par une espèce de violence où il attrape un garde comme ça, il le jette. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais en moi cette espèce de colère extrêmement puissante que j'essayais de cacher par tous les moyens possibles grâce à l'art, grâce au théâtre.
Vous faites des petits rôles à l'écran, déjà, à ce moment-là, et puis après vous...
Ah, des rôles à Oscar.
Des rôles à Oscar.
Complice du brocanteur, dans Une femme d'honneur.
Ou le maître
ça
nageur violent.
Ça s'appelle
violent.
Donc de l'autodérision. Voilà, on y est. C'est ça.
Et puis vous devenez ma sœur.
Ah, j'ai fait un peu de réflexologie plantaire à un moment, oui.
Chez Warner.
Chez Warner Music et chez Sony Music, ouais, c'était toujours la musique. En fait, quand on est jeune comédien, la plupart du temps, il faut qu'on travaille en même temps. Ouais. J'ai fait plein de trucs. Enfin, j'ai travaillé chez Renault Assistance pendant longtemps, comme standardiste. J'ai été manutentionnaire dans les chais à Bercy pour porter les caisses de vin.
Mais vous faisiez déjà de la poésie à ce moment-là ou pas ?
Je vendais des jeans, ouais.
Ah oui ?
Oui, j'écris de la poésie depuis que j'ai 17 ans, ouais.
D'accord. Oui, donc vous aimez les pieds. Ça, c'est fait.
Je ne sais pas si les pieds m'ont vraiment inspiré pour la poésie.
Bravo, Nagui.
En 2007, vous écoutiez Nick Cave. And all of those birds. Là, il s'est calmé, là. Pourquoi cette musique ?
Ah, j'adore. Enfin, j'adore absolument. J'aime d'amour Nick Cave. J'aime d'amour les rockers. Et là, ça s'entend pas, mais c'est aussi un sacré putain de rocker. Et des voix.
Oui, mais il est dark, hein. Il est quand même.
Ouais.
Il a pas eu beaucoup
il
de chance.
Il est dark, mais il est profond, il est puissant. Puis il a ce côté crooner que j'aime. Enfin, moi, j'aime. Je parlais de Jim Morrison tout à l'heure, pour moi c'est la droite lignée avec Eddie Vedder, avec tous ces gens-là.
2007, c'est la création de Colibri, on l'a évoqué tout à l'heure, ce mouvement que vous créez avec Pierre Rabhi dont vous avez entendu parler déjà en 2002 quand il vous laisse présenter à la présidentielle. Et puis vous êtes allé le rencontrer, mais tout ça pour revenir sur cette notion de vote et de citoyen actif aujourd'hui, avec l'échéance présidentielle qui approche. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a vraiment un candidat qui prend à bras-le-corps les questions écologiques ?
Y en a plusieurs, hein. Enfin, et Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot et dans une certaine mesure Anne Hidalgo prennent ça très au sérieux. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils s'unissent. Moi, j'ai soutenu un processus qui s'appelle la primaire populaire, qui leur dit, au lieu de chacun faire cavalier seul et d'essayer de vous imposer par la force, pourquoi est-ce que vous vous entendez pas sur le programme, sachant que vous êtes quand même d'accord sur une immense majorité des sujets, pour ensuite faire une primaire populaire et que les gens vous départagent.
Oui.
Et puis ensuite, faites équipe, plutôt que d'y aller chacun dans votre coin.
Et est-ce que c'est envisageable?
Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Parce que, pardon, on est dans une espèce d'utopie. Tout à l'heure, on a parlé du problème des lobbies et de l'argent. Or, le problème, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pourquoi ne pas rendre économiquement viable ou rentable l'écologie? pourquoi ne pas justement à la façon du jujitsu prendre la force de l'autre pour
le dépasser.
Exactement.
Il y en a qui le font, hein, des gens comme le mouvement Impact France, Eva Sadoun ou son Lita.co là, et Rift, qui sont des applications qui permettent de savoir comment on peut investir justement dans la transition écologique. C'est des gens qui essaient de divertir les flux financiers. C'est ce que fait Lucie Pinson aussi, qui a eu le prix Goldman, comme Claire Nouvian, qui a convaincu les banques, ou qui les a plutôt obligées dans un rapport de force à désinvestir du charbon et des énergies fossiles pour que ces flux financiers aillent ailleurs. C'est sûr que c'est complètement...
Comme les grandes marques du luxe laissent tomber aussi la fourrure, comme il y a comme ça des tendances qui vont plutôt dans le bon sens. Ouais. Mais pourquoi?
Mais c'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'être extrêmement nombreux. Là, je parlais de la primaire populaire. En fait, la primaire populaire, ça ne peut marcher que s'il y a des millions de gens, en fait, qui font pression sur les candidats. C'est pareil avec les banques, c'est pareil avec les responsables politiques. Pour l'instant, ce rapport de force, il est trop ténu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous reste un petit peu trop spectateur de tout ça.
Oui, mais les candidats que vous avez cités, en tout cas dans les sondages, pour l'instant, ne sont pas pressentis comme étant dans la win, quoi.
Ah bah, ils pourraient gagner que s'ils s'unissaient. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut faire équipe, quoi.
Oui, mais... Et vous y croyez ?
En fait, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas.
Union.
C'est que
c'est
indispensable.
Ouais.
Après, s'ils le font pas, ils le font pas. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'arithmétiquement, aujourd'hui, il n'y en a aucun des trois qui est capable de prendre le dessus.
Donc s'ils ne le font pas, c'est que vraisemblablement, ils ne croient pas suffisamment à la nécessité de s'allier pour faire changer quelque chose.
Oui, parce mais que... c'est aussi... Et que l'intérêt personnel prédomine.
Oui, et puis les partis politiques, c'est des boutiques aussi. Mmh. Ils ont besoin de garder leurs clients, de continuer à
ce qui n'est pas du tout
dans
la logique.
Donc ça va pas dans cette logique de faire équipe.
Mmh. En 2015, Frédéric Astalf chantait... Et là, on est dans Demain.
Ce film que vous avez écrit et co-réalisé avec Mélanie Laurent, projeté à la COP21, qui a remporté plusieurs prix, notamment le César du meilleur film documentaire en 2016, qui a rencontré un grand public aussi, et qui a été diffusé dans plus d'une trentaine de pays. Ça a été un vrai raz-de-marée, Demain.
Bah, bravo, raz-de-marée.
Bah ouais, forcément. Et tout ça part d'une étude scientifique. Publié dans Nature en 2012, qui montre à quel point l'effondrement généralisé des écosystèmes va nous conduire clairement à la catastrophe. On a parlé du crowdfunding pour financer ce projet. L'idée initiale, c'était d'être des copains autour d'une table et de se dire allons-y, rêvons grand.
L'idée initiale, c'était de se dire les gens savent que ça va mal, on passe notre temps à leur dire. Peut-être que le meilleur moyen de les faire bouger, c'est de leur montrer qu'il y a des solutions, qu'il y a des gens formidables, qui font des trucs aux quatre coins du monde, et d'essayer de leur raconter une autre histoire de l'avenir. De leur dire, l'avenir, ça pourrait être comme ça. Si on mettait bout à bout, en gros, toutes les meilleures pratiques qu'on connaît déjà,
ce qu'il y a
voilà
peu,
à quoi le monde pourrait ressembler.
Ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup montré le côté noir, obscur d'Animal, mais il y a aussi ce côté lumineux du Costa Rica, ce jeune homme qui ramasse le plastique sur les plages aussi, qui
Afro-chan,
est absolument, absolument formidable.
Et là aussi, on a voulu aller rencontrer des gens extraordinaires.
Vous avez rencontré quelqu'un d'extraordinaire, c'est Claire Nouvian déjà.
Moi, donc Claire Nouvian.
Évidemment. Bonjour Claire, merci.
Bonjour.
De venir à ce micro. Vous êtes la fondatrice de Bloom depuis 2005, cette association qui est entièrement dévouée aux océans, et vous êtes présente dans Animal, face à justement, on se demande qui est le plus gros animal de tous, face à des espèces d'idiots qui ne voient qu'un intérêt financier. Non mais franchement, on voit leur connerie.
Ouais, j'adore votre liberté de parole.
Non mais parce que c'est des cons, ça se voit, c'est des cons, c'est des espèces de beaufs en costume qui ont le pouvoir de décider de détruire la planète, qui en ont rien à foutre parce qu'ils ont pris l'argent qu'il fallait là où il fallait pour leurs intérêts personnels, qui ne réfléchissent pas.
C'est pas rassurant sur Bruxelles.
Qui n'ont même pas le courage de répondre à des enfants, ne pas répondre à un enfant, mais je pense que c'est le truc le plus dingue qui...
Il y a des enfants casse-pieds. Hein,
c'est incroyable. Mais il faut leur répondre, il faut leur parler aux enfants.
Moi, ça fait 12 ans que je réponds pas aux miens.
quel est le combat de Bloom ? Parce que quand on dit, évidemment, protéger les océans, ça semble être... Impossible, tellement c'est vaste, oui, c'est ça. C'est plus vaste que les terres, déjà.
Oui, on a le même problème que celui que Cyril décrit dans son film, hein. C'est un problème systémique, en fait. On a un problème avec le système, on a un problème avec l'échelle des industriels, en fait. Les industriels de la pêche, comme les industriels de la viande, etc. ne peuvent pas être une solution qui est compatible avec ce qu'on doit mettre en œuvre maintenant à échelle humaine, à échelle de la nature, à échelle de la planète. Ça marche pas, en fait. Et donc, je veux pas qu'on incrimine trop les institutions européennes, parce que ce qui se passe en Europe est exactement le reflet de ce qui se passe en France. Enfin, vous voyez, parce qu'on a bon dos, en fait, de critiquer.
Non, c'est pas ça.
Parce que c'est, les gens, nous, on agit au niveau européen parce que c'est souvent la bonne échelle pour l'environnement. Mais il se trouve que quand on va parler aux sénateurs ou aux députés c'est à l'Assemblée nationale, c'est le même combat. Hein, oui.
Leurs intérêts personnels sont plus importants que l'intérêt de l'espèce humaine.
Oui, mais en fait, ils ont des intérêts politiques, il y a des micmacs, des bidouilles, etc. Et en fait, ils ne votent dans le bon sens que s'il y a une énorme pression médiatique et de l'opinion publique. D'où l'intérêt, merci de m'inviter, et quand je vois...
Venez tous les jours, hein.
Ah mais on vient tous les jours, parce que notre seule façon d'être entendu et de gagner nos combats, c'est quand les médias font suffisamment de bruit sur les affaires qu'on va sortir. Nous, en effet, on a une expertise très forte sur un domaine précis, et que ça permet la mobilisation du grand public. Genre, peut-être qu'à l'issue de cette émission, les gens vont venir sur le site de Bloom, vont peut-être financer notre campagne de lutte contre les industriels pour aller en justice, justement, parce qu'en fait on a juste ras-le-bol.
Mais alors, sauf que aller en justice, il y a eu l'affaire du siècle
qui est un succès
et je suis fier de faire partie des 2,5 millions de personnes qui ont signé, sauf que résultat des courses.
Ah ben justement, enfin il y a eu quand même, ça a sommé l'État d'agir, super. Donc quand même, enfin c'est énorme.
Non, l'État est condamné à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15 millions de tonnes d'ici fin 2022. Si fin 2022 ils ne le font pas, ils auront une astreinte financière.
D'accord. Enfin, on a un président de la République qui fait aussi des promesses, qui fait des engagements et qui les tient pas forcément aussi.
Bien sûr, mais
qui permet à des chasseurs de s'attaquer à plus de 60 espèces alors que ce n'est pas le cas dans les autres pays européens.
Là, c'est pas une promesse. Non, c'est un engagement à tenir devant les tribunaux.
Là, c'est le tribunal qui condamne l'État. Donc là, effectivement, si l'État ne le fait pas, on a un autre problème.
Oui, non, mais si l'État ne le fait pas,
ça
va être payé par l'argent public, donc par tout le monde.
Sur bloomassociation.org, puisque c'est le site dont vous parliez à l'instant, qu'attendez-vous des visiteurs de ce site? Des cotisations, des aides, signatures,
en fait,
de pétitions?
On a besoin d'argent, on est très peu nombreux, on a une équipe qui est constituée de chercheurs, donc c'est vrai que... On devient un peu la répression des fraudes maintenant, parce qu'en fait nos chercheurs en fait découvrent des fraudes, mais en série. Enfin, c'est un délire absolu. Donc on a posé des plaintes contre corruption auprès de l'Europe, des plaintes pour licence illégale, pour corruption de la décision publique. Enfin, vous voyez, on a vraiment des dossiers qui sont assez lourds. On demande accès aux données publiques parce que figurez-vous que la destruction de l'océan est financé par nos impôts. Hein. Enfin, juste que les choses soient hyper claires. Okay,
ouais.
Donc, en effet, on a besoin d'avoir accès aux données publiques et on est au tribunal administratif. Justement pour avoir accès aux données publiques. Donc on a en permanence des combats qui sont juridiques, législatifs, judiciaires, etc. Et ça, on les gagne parce qu'on est soutenu et qu'on peut déjà payer des chercheurs. Donc de la contribution financière, ça fait toute la différence, évidemment, pour des petites ONG, parce qu'on se bat contre des monstres. Mais aussi le soutien, le fait que les gens lisent et connaissent nos problématiques.
Est-ce qu'il y a des marques qui vous soutiennent? Parce qu'on parle de greenwashing aussi, avec des grandes industries ou des grandes sociétés qui font de la pub sur le tout écolo, sur le on est propre, on est formidable, machin. J'ai cru comprendre qu'il y avait par exemple Carrefour qui avait refusé...
De financement des industriels.
Non, mais qui avait refusé par exemple de distribuer des poissons issus de la pêche...
Alors Carrefour, il y a un gros malentendu. Carrefour fait semblant d'avoir mis en place une politique de pêche durable en s'abritant derrière un label qui s'appelle le MSC, Marine Stewardship Council, que les gens commencent à connaître parce qu'on voit le petit label MSC sur pas mal de poissons, qui est en grande partie mensonger.
C'est fou.
On l'a montré dans une étude et c'est un grand... Alors, ils communiquent par contre sur de la jolie petite pêche artisanale ou qu'ils ont l'air mignons, ces petits pêcheurs. Et par derrière, en fait, ils labellisent des grosses pêches industrielles ultra problématiques. Donc ça, si vous voulez faire une émission spéciale, je peux vous dire que notre directeur scientifique,
pour vous expliquer à quel point je croyais savoir et je tombe dans le panneau aussi.
On tombe dans le panneau. C'est fou. C'est pour ça qu'on a quand même un problème. On a ce problème d'échelle et que, en fait, notre seul bouclier face à, en gros, une démocratie qui est devenue très sensible aux intérêts financiers, aux lobbies, à leur puissance, etc., c'est les médias et le grand public. Avec les médias, on arrive à faire des choses. Avec l'opinion publique, avec la mobilisation des citoyens, on arrive quand même à gagner nos combats. Mais c'est la seule chose qu'on ait. C'est pas mal.
Mais c'est la seule chose qu'on ait.
Quel message voulez-vous faire passer aux plus jeunes, puisque c'est l'avenir, c'est eux, et aux premiers votants, ceux qui viennent d'avoir 18 ans et qui vont pouvoir s'exprimer aussi?
Alors déjà qu'ils aillent voter, évidemment, et qu'ils fassent barrage aux fascistes, même s'ils sont minoritaires, mais quand même aux fascistes qui montent en France, parce que ça fait vraiment peur, de lire de l'histoire, de lire des livres, hein, apprendre la pensée et apprendre à penser, et que ben ils me donnent espoir, en fait. J'avoue que je préfère les jeunes de la génération d'avant, voilà, ceux qui sont, je sais pas, ceux qu'on a rencontrés qui sont assez extraordinaires dans le film de Cyril, mais les jeunes aujourd'hui, ceux que je rencontre, m'inspirent plus que les gens de 60 ans que je croise, pas qu'au Parlement.
Ah bon, d'accord, ok. Non mais où ? Laissez tranquille les gens de 60 ans, s'il vous plaît.
Juste pour dire un mot là-dessus, ce qu'on montre dans le film, en fait, et ce que Claire nous explique au Parlement européen, c'est qu'il y a 10% de lobbyistes qui travaillent pour l'intérêt général, donc ça c'est les ONG comme Bloom, et 90% des lobbyistes qui travaillent pour l'intérêt privé. Ce dont on a besoin, c'est de donner plus de force, c'est d'avoir plus de lobbyistes d'intérêt général, et ceux qui y sont, de leur donner plus de force. Donc effectivement, financer des associations comme Bloom pour leur permettre d'embaucher plus de gens, de faire plus de recherches scientifiques, d'aller voir plus de députés, c'est absolument indispensable.
Bloomassociation.org, merci Claire Nouvian d'être venue à ce micro, et vous revenez quand vous voulez. Tanguy Passureau, de quoi parles-tu tout à l'heure?
Eh bien, je vais vous parler des électeurs d'Éric Ciotti qui ne valaient rien du tout, mais là depuis samedi, tout le monde les veut, ils ont pris une cote, une cote.
Et on continue avec Cyril Dion jusqu'à midi. La bande originale, avec Lina Cadeau, Dédi, Morgane Cazine,
Florence
Mendez, Tanguy Passureau,
bonjour.
Daniel Morin, notre Morgan, invité, Cyril Dion. Nous parlons d'Animal, ce film qui est déjà au cinéma et qu'il faut absolument aller voir en famille, qui aura forcément un écho dans votre réflexion, dans finalement ce à quoi on peut servir quand on est sur cette terre, avec cette fameuse phrase de Saint-Exupéry, nous n'avons pas, nos enfants n'héritent pas de notre planète, nous l'empruntons à nos enfants, c'est vraiment ça, c'est cette responsabilité-là, d'où la présence de Bella et Evie Poulane,
qui ont 16 ans tous les deux, et quand je les ai rencontrés, comme beaucoup d'autres jeunes qui marchaient pour le climat, ils n'avaient aucun espoir. C'est-à-dire qu'ils disaient, en gros, l'avenir, c'est foutu. Et je leur dis, mais à 16 ans, vous pouvez pas, vous dire que l'avenir est foutu. Il faut absolument trouver d'autres voies. Donc c'est pour ça qu'on les emmène dans un voyage, qui est à la fois un voyage géographique, mais aussi un voyage initiatique.
Avec un sentiment d'hypocrisie que Bella avoue quand elle est dans le hall de l'aéroport, en train d'attendre l'avion, et où elle est tellement mal, tellement elle culpabilise à l'idée de prendre l'avion.
C'est une conversation qu'on a eue avec eux au tout début, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup hésité parce qu'ils voulaient pas prendre l'avion. Et puis finalement, ils se sont dit que le film aurait beaucoup plus d'impact et qu'il s'agissait pas d'aller en vacances à Bora Bora non plus, qu'il s'agissait vraiment de faire quelque chose qui touche des millions de gens. Mais quand même, quand on s'est retrouvés à l'aéroport, ils emmenaient pas large. Mmh. Et donc je les ai filmés pour qu'ils le disent aussi. Et Bella dit un truc très fort, elle dit « Je me sens hypocrite, mais on vit dans une société où on est tous amenés à se sentir hypocrite. » C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème systémique. Les gens, quand ils prennent leur voiture le matin, ils se disent pas « Tiens, génial, je vais réchauffer le climat ». Quand ils vont faire leurs courses, ils se disent pas « Tiens, génial, je vais acheter du plastique, ça va partir dans les océans ». Ils sont quand même pris dans des mouvements où la société est organisée d'une certaine façon et où ils sont un peu contraints de faire des choses avec lesquelles ils se sentent pas en accord. Donc évidemment, chacun d'entre nous peut faire de son mieux et on peut arriver à utiliser moins de plastique, on peut arriver à manger moins de viande, mais quand même... 75% du problème, il est vraiment structurel.
Et on peut partir en vacances aussi, mais...
Près de chez soi.
Il faut faire attention. Oui.
Moins de chez soi, mais moi je suis allé à... Alors,
vous savez pas où j'habite, hein.
Moi je suis allé à Venise en voiture électrique cet été.
7 ans de voyage.
C'était long, c'était chiant, mais on y est arrivé. Les enfants m'en ont voulu.
même sur la voiture électrique, et je fais partie de ceux qui en ont aussi, mais c'est vrai que quand on voit comment la terre, les mines de lithium en plein air...
Nagui a appris la conséquence des batteries, je vous assure, même physiquement. Physiquement,
non, mais j'ai pris un coup.
Il était là, il a fait non.
Tu pensais faire bien, quoi. Et
c'est
en fait,
ça. C'est ça. Alors, c'est moins grave que de rouler au diesel, mais c'est.
Ce qu'il fait maintenant.
On ne fait que reporter. On ne fait que reporter le problème. C'est ça qui est fou.
Absolument.
C'est ça
qui est fou. C'est quand même vraiment mieux. C'est quand même beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça a un impact. Et en fait, tout a un impact. Et c'est pour ça qu'on revient à notre histoire de sobriété heureuse, c'est quand même la voie, quoi.
Oui, il y a même ceux qui disent que la compensation de dire, ok, je pars en voyage, mais je vais compenser l'empreinte carbone en plantant des arbres, c'est pareil que c'est bidon aussi.
Alors c'est pas que c'est bidon. Enfin, déjà, ça dépend quels arbres on plante, où on les plante et de quelle façon.
Mangrove.
Mais le problème qu'on a, c'est que le carbone qu'on met dans l'atmosphère quand on prend l'avion, il y va tout de suite. Et il va y rester pendant plusieurs décennies. Mmh. En revanche, quand on plante des arbres, il va falloir entre 10 et 20 ans pour que ce carbone soit séquestré à nouveau dans les feuilles, dans l'arbre, quoi. Or, on est dans une course contre la montre. Donc, si on se dit, ah bah c'est bon, j'ai compensé, mais qu'en réalité, il y a un décalage de 20 ans entre le moment où on a envoyé le carbone dans l'atmosphère et le moment où il retourne dans les arbres, mmh, évidemment, ça ne nous rend pas service.
J'ai planté un arbre il y a 20 ans, je vais quand même prendre des vacances.
Donc toi, tu peux rouler.
Ça dépend où vous allez, quoi.
Voici Tanguy Vassureau.
C'est officiel, je suis un loser. Je n'ai pas fondé de start-up en 2002 que j'aurais pu revendre 14 millions à Rupert Murdoch. Je n'ai jamais eu assez de soul pour devenir la fin de semaine, le The Weeknd français. Sophie Davant a un magazine à elle. Michel Cymes et Damido aussi. Moi, non. Pourtant, j'ai déjà le titre. Saint-Siliconé et centrisme. Bon, il manque juste le financement. Je suis allé voir YouPorn. Il bute sur l'idée du centrisme. Quand il fallait acheter du bitcoin, je l'ai pas fait. J'ai pas collectionné de cartes Pokémon qui aujourd'hui vaudraient 90 000 euros. Et j'ai jeté l'autographe que Mylène Farmer m'avait fait en 85. Parce que je me disais, elle est sympa la petite, mais elle percera pas. Trop tristoun. Je mise tout sur Vivien Savage. La petite lady n'est que le premier d'une liste de tubes qui va le mener au panthéon de la chanson. Son autographe à lui, je l'ai toujours. Je suis un loser. Autre exemple, je n'ai pas collectionné des lecteurs d'Éric Ciotti, alors qu'aujourd'hui ça a une valeur inestimable. J'aurais pu en kidnapper un à la sortie d'une permanence LR, en package, j'aurais accroché à un hameçon le livre La droite de la droite de la droite pour les nuls. Il l'aurait pris, j'aurais tiré et hop, dans le Kangoo, direction chez WAM. Parce que les lecteurs de Ciotti, avant ça valait rien, on se moquait d'eux. Mais là, en deux jours, ils ont pris une valeur plus que le cours du cacao si la marmotte de Milka avait pété les plombs et bouffé tout le chocolat. Éric Zemmour, à peine Ciotti avait-elle perdu samedi, qu'il écrivait une lettre à ses électeurs. Alors lui ne perd pas de temps. Il est capable d'offrir une smartbox massage sensuel à votre femme alors que vous êtes sur votre lit de mort. Il leur a écrit une lettre. Il lui est incroyable, quoi. Roméo et Juliette à côté, ce sont deux punks à chiens qui font l'amour sous 8-6. Il leur a écrit « Nous sommes si proches et avons tant en commun ». Ce qui est vrai. Pour l'électeur de Ciotti, Valérie Pécresse, c'est une trotskiste. Dans la liste des gens qui détestent, il y a 1. Le sous-commandant Marcos, 2. Raoul Castro, 3. Pécresse. Dans sa lettre, Zemmour a aussi flatté directement Ciotti en le décrivant, je cite, « comme un homme bien droit ». Donc là, clairement, il a des infos. Hein, mais également, fiable et sincère. Enfin, moi, je reçois une lettre comme ça, je réserve directement le curé pour le dimanche suivant à 11h. Mais Ciotti, pour l'instant, reste fidèle à Pécresse. Alors, tout en créant son parti, bon, il se dit que si elle gagne, ce qui pourrait arriver, dans un univers parallèle où Xavier Bertrand sera directeur du FMI, bon, eh ben il aura un bon poste. Alors que les chances de Zemmour sont minces. Je vois, ses grosses prises politiques pour l'instant, c'est Christine Boutin, la Bernadette Soubirous du pauvre, et Jean-Frédéric Poisson, le type qu'on a envie de mastiquer seulement le vendredi. Oui, les électeurs de Ciotti sont désirables, convoités, ils ont la même cote que les merguez à la fête de l'humain. Marine Le Pen aussi les veut. Elle a déclaré, ils ont la possibilité de participer à ma campagne, où ils trouveront une défense assumée, décomplexée de la nation, de l'identité, des frontières. Oh là 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 là, ces phrases à rallonge. Au niveau approche, Le Pen c'est Chateaubriand, Zemmour c'est Jackie et Michel. Hein, Marine Le Pen a parlé alors depuis Varsovie, en Pologne. Oui, si vous pensez que vous avez des week-ends pourris, pensez au fait que d'autres passent les leurs en Pologne. Hein, une façon, disent les commentateurs, de montrer qu'elle prend de la hauteur. Quand en France, la droite choisit son candidat, elle se barre ailleurs. Oui, je m'en fous, Valérie qui ne connaît pas Zemmour, c'est le fils de Lovage, je sais pas. Hein, moi, je fais pareil. Hein, ce week-end, 100% des humoristes étaient au festival de Montreux. Moi, je suis allé à Ménarland, que les vieux continuent à appeler par son ancien nom, Béziers. Non, et puis, la Suisse, c'est pas pour moi. L'air est trop pur, ça fait 20 ans que je vis à Paris, je sais que mon corps tiendrait pas. C'est-à-dire, quand je me crève un bouton, j'ai des particules fines qui sortent. En Pologne, Marine Le Pen a rencontré les gens du PiS, qui n'est pas une réunion d'un continent, mais un parti politique, droit et justice en français, un parti pro-vie. Alors ce qui signifie pas qu'ils profitent de chaque moment en criant « Carpe diem les loulous hein, », mais qui sont contre l'avortement. Ils sont aussi contre le mariage homosexuel et le PACS, en fait contre tout ce qui concerne des gens de même sexe. Hein, même Laurel et Hardy, s'ils avaient tourné en Pologne dans les années 30, donc déjà, bon, ça aurait été moins drôle, hein, voilà, ils leur auraient collé une femme. Alors pour en revenir à Ciotti, c'est la revanche de l'outsider. C'est comme si Petit Tonnerre, le Mustang de Yekari, remportait la cinquième à Vincennes. Il était là dans le sud, avait jeté sous les pins, entouré d'écureuils qui attendaient qu'il crève pour le manger. Et là, avec ses 40% de voix au second tour, il pèse plus que Juliette Armanet dans la playlist France Inter. C'est du délire. Samedi, j'ai cru que c'est lui qui avait gagné. Il a parlé plus de 10 minutes pendant que Pécresse patientait. Elle a tellement cru qu'elle était dans la salle d'attente du dentiste qu'elle a commencé à lire un vieux Paris Match. Et hier, dans le JDD, Éric Ciotti, qui sait qu'il est devenu plus sexy qu'un canard vibrant avec des piles neuves, a dit « Valérie Pécresse n'a aucune chance de gagner si elle ne reprend pas mes idées. » C'est comme s'il y avait une primaire à gauche et que Philippe Poutou arrivait deuxième, disait à Hidalgo « Je veux le rétablissement immédiat de la Commune de Paris, file-moi un pavé Anne que je le foute dans la face des keufs. » Alors même qu'Anne Hidalgo n'est que vivre ensemble, amour, écoute et partage. Ok, à partir du moment où vous êtes d'accord avec elle. Hein, Ciotti dans le JDD ajoute « Cette élection va se jouer à la droite de la droite. » En fait, c'est plus un mec, c'est un GPS déréglé qui tourne en rond autour du pâté de maison. Hein, en attendant, auditeur d'Inter, si vous avez dans votre famille un lointain cousin qui a voté Ciotti, foutez-le à la cave et contactez Le Pen et Zemmour en disant « Voilà, maintenant, c'est au plus haut franc. » Et il n'y a pas de petit moyen de faire de l'argent. D'ailleurs, moi aussi, j'aime la Suisse. J'y vais pas au même moment que les autres, c'est tout.
Merci.
Et Tanguy, on te retrouve le 8 janvier à Granville.
Oui.
Animal est au cinéma depuis mercredi dernier. La chasse, la pêche intensive, les safaris aussi, la déforestation, la pollution, tout ça. Ce sont aussi les...
Quel beau programme.
C'est
l'énumération qui est un petit peu violente. Il y a Jane Goodall dedans, il y a Éloi Laurent, il y a des gens comme ça qui
redonnent de l'espoir. Très émouvant le témoignage de Jane Goodall.
Je l'ai rencontré, Jane Goodall.
Non, du tout. Parce que c'est vrai que ce que vous avez voulu, c'était d'abord comprendre ce qui se passait pour agir sur les causes. C'est la démarche d'Animal et la réussite d'Animal. Après, vous n'êtes pas spécialement végétarien, vous l'avez dit dans une interview, vous le fûtes, mais vous avez craqué.
Craqué, en fait. C'est plus compliqué que ça.
C'est quoi alors ?
Non, mais peu importe. Enfin,
ah, si, c'est
non, non, en fait, j'ai juste des problèmes de bite qui font que je peux pas manger de gluten, je peux pas manger de lacto, je peux pas manger de légumineuses, je peux pas manger de fruits qui fermentent, genre des pommes, des poires, etc.
Alors qu'un
c'est juste que j'essaie bon
veau
de
7 heures, bien. Ouais.
Enfin, vous n'êtes pas obligé non plus de manger. Hein.
C'est ça.
Voilà. Non, mais c'est intéressant de dire que c'est aussi.
Non, mais ça m'a permis juste de voir que effectivement, il y a des pathologies qui font qu'on est obligé d'en manger un petit peu parce que juste on peut pas avoir de protéines végétales.
Mais qu'en tout cas, le problème de la disparition des animaux, dont les êtres humains, passe par en effet cette la chasse, la pêche, les safaris, la déforestation, les pollutions. Et quand on voit qu'un pays comme le Costa Rica, alors le paradoxe, c'est qu'on a envie d'y aller, mais qu'apparemment vous nous dites qu'il vaut mieux pas aller au Costa Rica. Et pourtant, ce président de la République qui accueille Bella et Vipulan et qui explique comment il a replanter les arbres et qu'à nouveau il y a, je crois que c'est 6% de la planète qui se retrouve.
En fait, il y a 5% de la biodiversité mondiale qui est au Costa Rica, qui est vraiment un tout petit pays, et ils sont passés en 40 ans de 20% de couverts forestiers à 50%. Ce qui est vraiment absolument ahurissant dans la région, parce que au Brésil c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup.
Allons au bout du raisonnement, ce pays-là vit grâce au tourisme.
Alors, ce pays-là vit grâce au tourisme et grâce à la valorisation des services écosystémiques. C'est-à-dire qu'en gros, le fait que les forêts continuent à être debout, ça rend des services qui, sinon, en fait, devraient coûter de l'argent.
Il n'y a pas d'armée.
Donc, ils ont valorisé ça.
L'électricité vient des volcans, des éoliennes, des forces marées motrices.
La plupart de l'électricité est renouvelable, effectivement, beaucoup grâce à l'hydroélectrique. Et donc, leur idée, c'était de faire en sorte que le tourisme finance aussi le fait que les forêts restent debout. Mmh. C'est-à-dire que le fait que les gens viennent pour admirer des animaux sauvages, et ils viennent de façon très peu intrusive, parce que c'est vraiment des petits sentiers, il y a très peu d'infrastructures, pour voir cette beauté, ça a permis de gagner de l'argent qui a permis de laisser les forêts debout. Effectivement, c'est pas une solution d'aller au bout du monde en avion pour voir les animaux au Costa Rica. En revanche, on pourrait faire la même chose localement. C'est-à-dire que moi, je serais prêt.
Je suis d'accord, mais pardon, si personne ne va au Costa Rica, ça va être un drame économique pour eux aussi.
Parce qu'ils ont des voisins, quand même, le Costa Rica. Tout le monde n'est pas obligé de traverser toute la planète pour y aller.
Non, mais ils viennent quand même des États-Unis. Enfin, la clientèle est très américaine et
ils peuvent tout à fait venir du Mexique, des États-Unis. Ils viennent pas à pied, ils ont une voiture électrique. Et ils peuvent venir avec des trains à grande vitesse. Ça pourrait se faire. Non, mais en l'occurrence, chez nous, ça serait intéressant d'explorer cette voie en se disant, si on réensauvage des endroits et qu'on a des animaux qu'on peut voir comme ça, moi je suis prêt à y aller le week-end et à payer plutôt qu'aller dans un parc d'attractions, parce que c'est sublime et c'est une façon d'économiquement bien donner sûr une raison à ces forêts de rester debout plutôt que de les couper pour faire de l'industrie ou du
ou des
bois,
routes ou des
du chauffage.
Alors moi j'ai fait le Center Park en Sologne, il y a pas mal de lapins quand même.
Hein. Merci Tanguy.
D'autres merci pour cette pierre
bien
à l'édifice.
Voilà. Ouais, c'était bien.
D'autres événements culturels, oui. Leïla.
Sylvain Tesson vient de publier un nouveau livre, mais pour qui ?
Bah pour sa famille.
Et une bande dessinée pour les enfants.
Pour non.
Netflix.
Quand je dis pour qui, ça a été financé par qui ?
Ah, par qui ?
C'est une fiction, c'est pas de l'humanitaire.
Un parti politique ?
Non.
Oh non.
Une chaîne de télé ?
Non plus.
Une plateforme ?
Non plus.
Sa maison d'édition ?
Non plus.
Pour personne ?
Non.
En fait, il va pas le faire finalement.
Pour lui-même. Non, non.
Son père ?
Pour une grande marque de luxe.
Ah, de Vuitton.
Absolument, c'est pour Vuitton. Pour Vuitton, la version intégrale du récit de l'agent X, qui est une mission de 161 jours, avec des textes de Sylvain Tesson et l'illustration de l'auteur de bande dessinée François Schuiten. L'idée, c'est de raconter dans un roman graphique une dystopie avec des sols stériles, des atmosphères complètement irrespirables, un surpeuplement et un couple qui s'envole vers Mars pour étudier la possibilité d'une installation humaine. C'est toujours notre solution de secours, chose. Voilà, c'est ça. Tandis que des dragons de Komodo se reproduisent et se multiplient dans ce qui fut les camps de base de l'Everest, avec une terre désormais gouvernée par une globale mama. Voilà, c'est le.
C'est mieux au cannabis, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Il y aura une trentaine d'exemplaires signés par les artistes qui seront en vente dans les magasins Vuitton, bien entendu. Le sponsoring, c'est essentiel pour créer Cyril Dion.
C'est essentiel d'avoir un peu d'argent. C'est ouais. Je sais plus qui disait ça, qui disait l'argent n'a aucune importance,
tout le tout
c'est d'en
fait.
Avoir. Donc
évidemment,
on a tous besoin de trouver de l'argent. Moi, j'essaye d'en trouver toujours avec des gens qui sont les plus en harmonie possible avec ce qu'on fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on veut pas servir de caution pour que des gens fassent du greenwashing et disent « Regardez, c'est génial, on fait quelque chose avec Animal, Cyril Dion, etc. » Et puis qui continuent à faire exactement l'inverse.
C'est ça.
C'est ça le problème.
Ouais, d'être en accord avec son projet jusqu'au bout. Il y a un livre justement qu'on peut vous recommander pour Noël.
Chez Actes Sud, absolument. Chaque génération a son combat. Voici le nôtre, Animal, avec des illustrations. En fait, c'est l'excroissance du doc.
Tout ce qu'on n'a pas pu dire dans le film, on l'a dit dans le livre. Parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires avec Philippe Descola, qui est un grand anthropologue, avec Liz Adley, qui est pareil une biologiste en Californie qui est formidable. On a été rencontrer des Indiens de Taraba au Costa Rica, donc des populations autochtones.
Ce qui est formidable, on l'a pas dit, il y a tellement de choses dans le doc. Mmh. C'est de l'importance même des fourmis. Ouais. Je crois que d'ailleurs c'est au Costa Rica qu'on
voit
aussi.
Au Kenya.
C'est au Kenya
qu'il y a un biologiste qui nous dit est-ce que vous pensez que si les humains disparaissaient, les fourmis s'en rendraient compte ?
Voilà, c'est ça.
Et Vipulane dit non, je crois pas. Et il dit en revanche, si les fourmis disparaissaient, tout ce que vous voyez autour disparaîtrait aussi. Parce que c'est les fourmis qui vont chercher les petites graines.
Les femmes.
Qui vont les recycler. Oui, alors il y a un moment très drôle. Qui vont les recycler, qui vont les dispatcher dans tout le paysage. Et c'est grâce aux fourmis qu'il y a la végétation, donc qu'il y a les herbivores, donc qu'il y a les carnivores. Et il y a un moment, effectivement.
Les femelles.
Où le biologiste explique que ce sont que des femelles. Et donc Vipulane dit, mais ils sont où les mâles? Et il dit, les mâles, en fait, ils servent à se reproduire et puis après, ils meurent. Et on voit Vipulane qui a un grand moment de solitude, qui regarde comme ça les fourmis en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est ce qui va nous arriver.
Ouais, c'est ce qui t'arrive. Voici Daniel.
Aujourd'hui, mes amis, mon héros du jour aurait très bien pu être un humain, comme très souvent, mais il se trouve qu'un animal a très récemment, retenu mon attention, et ce, pour des raisons plus qu'exceptionnelles. Mmh. Cet animal, c'est un chat. Un chat anglais dont la famille adoptante est littéralement tombée sur le cul. On the fion, comme on dit chez eux. Le chat fait ses besoins dans les toilettes. Oui, il saute sur la cuvette, se soulage, puis s'en va poursuivre sa vie de chat. Alors, c'est incroyable, ok, mais pourquoi faire de ce chat mon héros? Eh bien, tout simplement parce que ce chat, sans le vouloir, nous montre la voie. Oui, grâce à ce matou, j'ai eu une épiphanie écolo. Pour une planète préservée, pour une planète soulagée, pour une planète sauvée, changeons de comportement. Oui, si les chats empruntent nos us et coutumes, prenons les leurs. N'allons plus aux toilettes. Toilettes qui gâchent des millions de litres d'eau chaque jour et assèchent notre planète déjà suffocante. Utilisons des litières.
Oui,
à la litière, un bac géant dans chaque maison où toute la famille, à l'unisson, se retrouve pour se soulager.
Pourquoi une litière géante et pas plusieurs individuels? Eh bien, tout simplement pour recréer le lien social. Oui, le lien qui nous manque à tous, le lien qui nous rassemble, tous ensemble, nus, dépouillés, vulnérables, égaux. Où sommes-nous les plus libres? Les plus en phase avec nos attitudes reptiliennes. Quoi de plus fédérateur que de faire ses besoins ensemble, débarrassés du carcan de nos vêtements que souvent l'hyperconsommation nous impose? Eh bien, rien du tout. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui, de façon solennelle, à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles.
Ah bon ?
Adrien, la famille est en perdition de repères, en manque de liens. Il nous faut agir, il te faut agir. Dans cette société où il est de bon ton de tout déconstruire, poussons le concept un peu plus loin en supprimant les chiottes. Oui, adieu Saint-Gobain, Villeroy et Bosch et autres manufactures de porcelaine réceptrices de nos consommations usées. Passons à la litière universelle, écolo, fédératrice. Nous avons tant à apprendre des chats, tellement à apprendre que si j'osais, mon cher Adrien, je vous proposerais bien d'aller encore un peu plus loin. Eh bien, je vais le faire, je vais aller un peu plus loin. Toujours dans un souci de partage familial, toujours dans un souci de protection de la planète, faisons une croix sur notre mode d'alimentation aussi fou que frénétique. Surproduction de fruits et légumes, élevage animal intensif et odieux à la fois. Passons au tout croquette. Oui, croquette pour tous, pour une production alimentaire raisonnée et pas austère.
Comment elles sont faites.
Car nous proposerons une farandole de saveurs exquises. Croquette goût bœuf, croquette goût saumon, croquette goût fromage, croquette goût cerise, croquette goût café. Et pour les puristes, croquette goût croquette. Fini l'exploitation de nos ressources, tout en goutte de synthèse. La vie de chat pour l'homme, voilà l'avenir de la planète. Allez, miaou à tous.
Merci Daniel Morin. Ça, c'est la BO de Animal, en ce moment au cinéma, signé Cyril Dion avec Bella et Vipulane en héros, parce que il faut, ils ont le cœur bien accroché pour aller façon grand reporter se balader un peu partout sur la planète et surtout être les témoins d'une nouvelle génération. Vous avez ou vous allez signer pour Arte Renaissance?
Ouais, on a déjà signé, ouais. On a fini de tourner quasiment. C'est un projet que je fais avec un réalisateur qui s'appelle Thierry Robert. Et ça devrait sortir au mois d'octobre, je pense, quelque chose comme ça.
Très bien. Et le 3 février, vous serez au Théâtre du Rond-Point, vous donnerez une conférence. 3 février,
oui,
22.
Et puis un spectacle, en fait. Avec Sébastien Hogg, qui a fait la musique d'Animal, on a créé un spectacle qui s'appelle Résistance Poétique. Donc c'est de la poésie et du rock'n'roll. Et donc il y a un livre de poésie qui va sortir chez Actes Sud qui s'appelle À l'orée du danger au mois de mars. Et on sera au rond-point pour faire le spectacle et une conférence.
Parfait. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour les banques, les politiques, les pollueurs, les défenseurs de l'agriculture intensive, les climato-sceptiques, les enseignes de la grande distribution et tous les gens qui se sont sentis insultés ce matin dans l'émission. Alors franchement, alors si pour vous, beauf, salaud, collabo, tueur sont des insultes, vraiment, vous êtes un petit peu sensibles, hein, les gars. Désolé pour tous les veaux qui ont été tués dans les forêts, qui ont été brûlés pour les besoins du tournage du film de Cyril Dion. Alors, c'est vrai que c'est moche, mais c'est pour sensibiliser. Et puis, comme le dit Nagui entre deux barbecues, en vrai, les légumes, c'est de la merde.
Alors qu'un c'est juste que j'essaie bon veau de 7h.
Ouais, c'est vrai, il a raison, c'est hyper bon le veau de 7h. Désolé pour nos auditeurs chasseurs, proprios de 4x4 diesel et donc fans de Nagui, qui ont été choqués par la bien-pensance écolo-bobo-bio de l'émission de ce matin. C'est vrai, c'était tellement propre que je me sens sale. Heureusement, demain, on fait une spéciale Fuel, déchets plastiques et amiante avec Valérie Damido.
Absolument, on va déco avec Valérie Damido. Merci Cyril Dion. Vous vouliez dire quelque chose avant de quitter ce studio?
Non, je voulais dire que si tout va bien, si on a bien fait notre travail, quand vous sortirez de la salle de cinéma, vous vous sentirez regonflé. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir que des horreurs, vous allez voir plein de choses formidables, plein de gens formidables. Et ça va vous redonner un peu de jus.
Merci Cyril Dion, bonne journée sur Inter, voici les carnets de campagne, à demain avec Valérie Damido.
À demain.